VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal présidentiel américain 2016. Le premier débat présidentiel va opposer ce soir la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump. Ce sera l'un des points forts de la campagne à 6 semaines du scrutin du 8 novembre. Le mode d'emploi avec Tatiana Mosso.
Il pourrait battre des records d'audience jusqu'à 100 millions de personnes vu les personnalités aux antipodes de Trump et Clinton et les sondages serrés. Rendez-vous à 21h, soit 1h du matin GMT, à l'université Hofstra, près de New York. Trump et Clinton seront seuls sur scène pendant 90 minutes autour de 3 thèmes, la direction de l'Amérique, la prospérité et la sécurité. Le modérateur ouvrira chacun des 6 segments avec une question. Chaque candidat aura 2 minutes pour répondre et ils pourront ensuite rebondir sur la réponse de l'autre. Chaque thème sera discuté pendant 30 minutes. La barre est plus haute pour Hillary Clinton. Vu son expérience et sa connaissance des dossiers, elle devra montrer qu'elle est présidentiable mais aussi honnête. Quant à Donald Trump, qui se présente comme un outsider, il devra convaincre qu'il a la trempe d'un président, qu'il connaît un minimum les dossiers et sans déraper, tout en restant courtois et surtout rassurer les républicains. Les prochains débats auront lieu le 9 octobre à Saint-Louis et le 19 octobre à Las Vegas.
Afrique maintenant, au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba sera investi pour un second septennat demain mardi, 4 jours après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'a annoncé la présidence gabonaise aujourd'hui, Nani Talani.
L'investiture aura lieu au palais présidentiel du bord de mer. Elle est rendue possible grâce à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a validé l'élection d'Ali Bongo en déboutant Jinping. Loin d'accepter sa défaite, l'opposant a rejeté la décision de la Cour, la qualifiant d'inique, de déni de droit. Il continue de se proclamer le président élu. Il devait recevoir à son domicile le corps diplomatique ce lundi. Le rejet de Jinping de la décision de la Cour risque-t-il d'aboutir à une poursuite d'une crise politique dans le pays au point de faire ombrage au nouveau septennat d'Ali Bongo Ondimba? Seul l'avenir nous le dira. Les observateurs électoraux de l'Union européenne ont critiqué la Cour qui, selon eux, n'a pas rectifié les évidentes anomalies constatées lors du scrutin. La France estime que tous les doutes n'ont pas été levés. L'Union africaine, le Maroc, les Nations unies et les États-Unis ont pris acte de la décision de la Cour.
Le pape François a reçu ce lundi matin au Vatican Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, pour une audience préparée avant les violences meurtrières ayant secoué son pays il y a une semaine. Selon un communiqué du Saint-Siège, une attention particulière a été prêtée pendant la réunion aux sérieux défis posés par la situation politique actuelle en RDC et les récents affrontements à Kinshasa, la capitale. Le Vatican a qualifié de cordial les discussions entre les deux leaders. RDC toujours, 10 rebelles ougandais des forces démocratiques alliées condamnés à mort ce week-end par la justice militaire congolaise. Ils ont été reconnus coupables de massacres à répétition à Beni et ses environs dans l'est du pays. Le point avec Idrissa Sedoudia.
Le verdict est tombé tard samedi. C'est hier que Maître Idi Djuma, un des avocats de la défense, a annoncé que la cour opérationnelle a rendu 10 arrêts condamnant à la peine de mort 10 prévenus sans leur trouver des circonstances atténuantes. Les décisions de cette cour militaire ne sont pas susceptibles d'appel. La peine de mort n'est plus appliquée dans le pays où elle est systématiquement commuée en prison à perpétuité. Le procès qui a débuté le 20 août visait des auteurs présumés des tueries de Tenambo et Ocha, localités du territoire de Beni. Ces massacres à répétition sont majoritairement imputés aux rebelles ougandais des ADF. Le dernier massacre à l'arme blanche remonte à la mi-août. Selon l'ONU, au moins 50 civils ont été tués en une seule nuit.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, la majorité présidentielle propose à l'opposition de se retrouver autour des valeurs de la nation dans le cadre de la formule du vivre ensemble, plutôt qu'un simple dialogue en cette période de tension. Mais les opposants tiennent à un dialogue inclusif. En attendant, la guerre des mots agace plutôt la société civile. C'est le cas de la Commission Justice et Paix de l'Église catholique qui appelle au respect strict des lois. On écoute l'abbé Félicien Mavungu, coordonnateur de cette commission.
Notre combat comme Église, comme commission du CP, c'est le respect de la légalité constitutionnelle. Donc, nous sommes pour le vivre ensemble, mais il faut bien qu'on échange, qu'on dialogue, mais pas de manière ponctuelle, mais de manière permanente, pour garantir ce vivre ensemble. Mais la meilleure garantie du vivre ensemble, c'est le respect des lois, le respect des constitutions, le respect de la légalité.
L'abbé Félicien Mavungu, coordonnateur de la commission Justice et Paix de l'Église catholique au Congo-Brazzaville. Tchad, les étudiants de l'université de N'Djamena en grève depuis 10 jours ont manifesté ce lundi dans la capitale pour protester contre la suppression des bourses d'études. Depuis le 15 septembre, date de la rentrée scolaire officielle dans le pays, élèves et étudiants empêchent la tenue des cours dans les établissements publics. Lycées et collèges publics sont restés fermés. De nombreux enseignants réclament également le paiement d'arriérés de salaire. Pas de bourse, pas de cours, scandaient aujourd'hui les étudiants pendant la manifestation. Une rencontre prévue dans la matinée avec le Premier ministre a été reportée sine die, sans explication. On passe maintenant au Niger. Nouvelle grève d'une semaine des enseignants des universités publiques du pays à partir d'aujourd'hui pour exiger le paiement d'arriérés de salaire. Nous avons reconduit notre grève pour une semaine quand nos revendications ne sont pas satisfaites, a expliqué à la presse Bakasso Zahabi, le secrétaire général du syndicat des enseignants et chercheurs du Niger, qui exige l'apurement total des plusieurs mois d'arriérés de salaire et de primes de recherche de ses étudiants et professeurs. Les enseignants avaient déjà observé un arrêt de travail dans tout le pays du 19 au 25 septembre pour les mêmes raisons. Ces mouvements de grève perturbent fortement les universités publiques et la rentrée académique prévue début septembre n'est toujours pas effective. Par ailleurs, depuis plusieurs semaines, les étudiants boycottent eux aussi les cours pour réclamer notamment le paiement d'arriérés de bourse. Mohamed Ben Omar, le ministre nigérien de l'enseignement supérieur, a justifié les retards de salaire et de bourse d'études par les importantes dépenses militaires du pays, qui fait face depuis février 2015 aux attaques du groupe djihadiste nigérian Boko Haram dans la région de Difa, zone frontalière du nord-est du Nigeria, fief de cette secte islamiste. Le Niger et ses voisins, notamment le Tchad et le Cameroun, ont mis en place en juillet 2015 une force multinationale pour combattre Boko Haram dans la région du lac Tchad. Cette force est financée essentiellement par les pays membres. Et puis au Mali, double assassinat hier soir à Tombouctou dans le nord-est du pays. Notre correspondant sur place, Abdoulaye Traoré, nous en dit plus.
C'est un double assassinat qui s'est produit cette nuit aux environs de 18h à Tombouctou, dans le quartier d'Abaradjou situé à la porte du Sahara. Selon les témoins, les assaillants sont 4 à bord d'un pick-up qui ont ouvert le feu sur un garde de l'armée malienne devant sa porte. Un de ses frères aussi fuitier, ce dernier s'est réfugié à l'intérieur d'une chambre, mais n'a pas échappé à son destin. Au moins, 6 coups de feu ont été tirés. Selon des sources proches du garde de feu, lui-même aurait affirmé qu'il est menacé de mort. Toujours selon les mêmes sources, on lui reproche d'avoir collaboré avec la force Barkhane. L'armée a aussitôt bouclé la zone pour l'enquête balistique, mais pour l'instant, on ignore l'identité des assaillants. Mais tout laisse à croire que cet assassinat porte la marque des islamistes. Abdoulaye Traoré depuis Tombouctou pour VOA Afrique.
Maroc maintenant, les élections législatives du 7 octobre s'annoncent comme un face-à-face serré entre les islamistes du parti Justice et Développement qui dirige la coalition gouvernementale depuis 2011 et le PAM, le parti Authenticité et Modernité, formation d'inspiration libérale fondée en 2008 par un proche du roi Mohamed VI, Fouad Ali Elima. Pour endiguer ce qu'il nomme la marée conservatrice dans le pays, le PAM, principal rival des islamistes aux élections législatives, se pose en défenseur des femmes et de la parité. avec 17% de femmes au Parlement, dont la présence est en partie garantie par un système de quotas. Le Maroc est au 109e rang sur 187 pour le nombre de femmes dans ses assemblées, selon un classement de l'Union interparlementaire qui regroupe des parlements du monde entier. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.